Bonjour, au micro Idrissa Sedoudia. Le président américain Donald Trump a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi qu'il avait été testé positif au COVID-19, tout comme sa femme Melania, et qu'il se mettait en quarantaine. Ce soir, la première dame et moi-même avons été testés positifs au COVID-19, a tweeté le président américain. Nous allons entamer notre quarantaine et le processus de rétablissement immédiatement. Nous nous en sortirons ensemble, a-t-il ajouté. Auparavant, M. Trump avait confirmé sur Fox News une information de presse selon laquelle Hope Hicks, sa proche conseillère, avait été testée positive. Il avait ensuite ajouté sur Twitter, je cite, « La première dame et moi-même attendons les résultats de notre test et pendant ce temps, nous entamons notre processus de quarantaine. Ces résultats ont donc confirmé que tous les deux, le président Trump et la première dame Melania Trump, ont testé positif au COVID-19. Selon le médecin de la Maison-Blanche, le président Trump va bien et restera à la Maison-Blanche pendant sa convalescence et continuera à assumer ses fonctions. Un juge fédéral de San Francisco a ordonné la suspension temporaire de certaines restrictions de visa imposées par l'administration Trump aux travailleurs étrangers et qui avaient été attaquées en justice par 4 organisations professionnelles, a-t-on appris jeudi auprès de ces organisations représentant notamment les entreprises de la Silicon Valley. Dans sa décision, le juge estime que M. Trump a outrepassé son autorité en publiant cette interdiction, précise le Wall Street Journal qui a révélé l'information. La décision du juge s'applique uniquement aux centaines de milliers d'entreprises représentées par ces 4 organisations, souligne le Wall Street Journal. M. Trump avait annoncé en juin le gel des cartes vertes et de certains visas de travail jusqu'en 2021, en particulier dans les nouvelles technologies, au nom de la lutte contre le chômage. Au Mali, les colonels qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août ont supprimé jeudi un obstacle de taille à la levée des sanctions ouest-africaines. Ils ont en effet renoncé à ce que le colonel Assimi Goïta, investi vice-président transitoire, puisse remplacer le président de la transition en cas d'empêchement de ce dernier, selon un document officiel publié jeudi. La junte accède là à une exigence primordiale de la CDAO pour lever les sanctions imposées au Mali le 20 août, au premier rang desquelles un embargo commercial et financier. D'autre part, l'émissaire spécial des États-Unis pour le Sahel, le Dr. J. Peter Ham, PAM, a été reçu jeudi par le président de la transition, Ba Ndaw. Nous reviendrons donc sur les réactions de Peter Pham dans un instant. Au Burkina Faso, 3 anciens proches du président déchu, Blaise Compaoré, ont déposé jeudi à la Commission électorale nationale indépendante leur candidature à la présidentielle du 22 novembre. Parmi les candidats espérant profiter d'un sentiment de nostalgie envers l'ancien régime, Eddy Komboigo, le président du CDP, parti fondé par M. Compaoré, et cadré Désiré Ouédraogo, ancien premier ministre de M. Compaoré, font partie des favoris du scrutin. Autre proche de Blaise Compaoré, candidat, Gilbert Noël Ouédraogo, président de l'ADF-RDA, ancien parti unique au pouvoir jusqu'en 1990. Au total, une dizaine de candidats, dont le président sortant, Roch Marc Christian Kabore, lui-même ancien baron du régime avant de le quitter, ont déjà déposé leur dossier. Le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, devrait le faire vendredi. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie, Idrissa Sedoudia. suite de nos informations, au Togo, 4 jours après la nomination du Premier ministre, le nouveau gouvernement a été rendu public jeudi. Au total, 33 portefeuilles ministériels, dont 10 occupés par des femmes. La grande surprise émane du ministère des Armées. Décryptage du nouveau gouvernement avec notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Depuis 2009, c'est la première fois que le ministère des Armées est pourvu. Rattaché à la présidence depuis 11 ans, ce département ministériel est désormais détenu par Esosimna Margaret Nyakade. C'est la première fois qu'une femme est nommée à ce poste stratégique, ce qui a surpris plus d'un et suscité la fierté des organisations de promotion des droits des femmes. Après la nomination historique d'une femme premier ministre, à la personne de Victoire Dogbe-Tomiga, 10 autres femmes ministres vont travailler à ses côtés pour, selon le nouveau directeur de la communication de la présidence, Kwesan Iwodevi, renforcer la lutte contre la pauvreté dans un contexte inclusif. Les habitués comme Paya Doua Boupessi, Gilbert Bahara, Yak Damhan, Robert Doucet ou encore Sina Lawson ont répondu de nouveau présents. On relèvera également les traits plutôt juvéniles de ce gouvernement comparé au précédent. Longtemps supprimé de l'effectif, le Togo dispose de nouveau de porte-parole. Ils sont 2 à s'en charger. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Au Mali, les États-Unis saluent la mise en place d'un gouvernement de transition dirigé par des civils comme un premier pas vers le retour à l'ordre constitutionnel. C'est l'annonce faite par le docteur Jay Peterfam, envoyé spécial des États-Unis pour le Sahel. Il a été reçu en audience jeudi par le président de la transition, Ba Ndaw. Le docteur Jay Peterfam à sa sortie d'audience.
Alors, c'est ma première visite en tant qu'envoyé spécial des États-Unis au Mali. J'ai visité dans le passé, mais pas dans capacité officielle. Et je suis heureux de pouvoir avoir cette audience avec Son Excellence, le Premier ministre. Nous, aux États-Unis, nous sommes contents que a été nommé un gouvernement dirigé de transition, dirigé par des civils, avec un premier ministre civil, et c'est une étape positive, un pas avant dans la voie pour la restauration de l'ordre constitutionnel ici. Et comme anciens amis, les États-Unis restent toujours à côté le peuple malien. La semaine dernière, nous avons célébré 60 ans de relations bilatérales et nous sommes toujours à côté le peuple malien pour l'accompagner dans le chemin et nous sommes prêts à continuer cet accompagnement et pour poursuivre notre objectif commun dans la lutte contre le terrorisme, le combat contre la corruption, pour la bonne gouvernance, pour la démocratie, respect aux droits de l'homme. Et ce sont les objectifs de vision que nous partageons ensemble et nous espérons tout succès dans ces objectifs.
C'était le docteur Jay Peterfam à sa sortie d'audience jeudi au Mali, où il a été reçu par le président de la transition Ba Ndaw, propos recueillis par Kassim Traoré. Pour sa part, le ministre américain de la Défense, Mark Esper, a effectué jeudi une visite en Algérie, renouant un partenariat stratégique entre Washington et Alger. Abdourahman Dia.
Au menu de la visite, contre-terrorisme, coopération militaire, sécurité régionale, la crise libyenne et le Sahel. Dans le cadre d'une tournée au Maghreb, M. Esper s'est longuement entretenu avec le président algérien Abdelmajid Tebboune, aussi chef des armées et ministre de la Défense, en présence du chef d'état-major et du responsable de la sécurité extérieure. Une rencontre qualifiée de fructueuse par la présidence algérienne. Les deux parties vont poursuivre la concertation et la coordination pour consolider les fondements de la paix et de la sécurité dans la région, dans le cadre du respect de l'unité et de la souveraineté de ces deux pays, précise un bref communiqué. Si les responsables militaires américains se rendent fréquemment en Tunisie et au Maroc, où la coopération en matière de défense avec les États-Unis est bien rodée, M. Esper est le premier secrétaire à la défense à se rendre en Algérie depuis Donald Rumsfeld en février 2006. Pour le Pentagone, l'Algérie est désormais un partenaire très important dans la région en matière de sécurité et de stabilité régionale, ainsi que face à la menace des factions armées djihadistes.
En Côte d'Ivoire, l'opposition a annoncé jeudi avoir suspendu sa participation au sein de la commission électorale indépendante, et ce à un mois de la présidentielle du 31 octobre, Nathalie Barge.
Dans un communiqué, les deux représentants de l'opposition, Alain Dogou et Yapo Yapi, ont notifié au président de la CEI la suspension de leurs fonctions. Le PDCI n'a pas de représentant au sein de cette commission de 15 membres qui comprend 6 représentants des partis politiques, 6 de la société civile, 1 du président, 1 du ministre de l'Intérieur et 1 du Conseil supérieur de la magistrature. L'opposition demande la dissolution de la CEI et du Conseil constitutionnel et l'ex-président Henri Conan-Bédié a appelé à la désobéissance civile en son nom, laissant ainsi planer le doute sur sa participation au scrutin. La campagne électorale pour le premier tour démarre le 15 octobre, a indiqué de son côté le responsable de la communication de la CEI, Inza Kigbafori, disant préparer allègrement la présidentielle.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Togo et le groupe Eranov ont réceptionné la turbine à gaz développée par Siemens pour leur projet Kekeli Efficient Power. Cette centrale, issue d'un partenariat public-privé entre le gouvernement et Eranov, permettra au Togo d'améliorer la stabilité de son réseau électrique et de se rapprocher de son ambition d'atteindre 100% d'électrification à l'horizon 2030. Le Nigeria veut privatiser sa société nationale de pétrole pour réformer le secteur pétrolier. Selon l'agence Reuters, le gouvernement payera en espèces les actions de la société qui fonctionnera comme une entité commerciale sans accès aux fonds publics. Cette société publique, productrice de gaz aussi, fournit plus de 70% des revenus de l'État, soit près de 40% du PIB nigérian. Elle écoule environ 1 million de barils de pétrole par jour, soit près de la moitié de la production nationale. Pour terminer, l'Afrique pourrait gagner jusqu'à 90 milliards de dollars par an, soit 3,7% de son PIB, en freinant les flux financiers illicites, d'après la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Ces flux comprennent la fuite de capitaux, les pratiques fiscales et commerciales illicites et les activités criminelles comme les marchés illégaux ou la corruption. Ces fonds sont inférieurs à l'aide au développement et aux investissements étrangers reçus par les pays africains et évalués à 102 milliards de dollars par an.
Les sports à présent avec Bagassé Koura.
Bonjour à tous. En RDC, tout est fin prêt pour la reprise du championnat de football ce 2 octobre. Un championnat qui reprend quelques 7 mois après sa suspension due au Covid-19. De Kinshasa, la correspondance de Valdo Simo Yamba.
Le coup d'envoi du championnat national de la RDC, la Vodacom Ligue 1, est donc attendu l'après-midi de ce 2 octobre 2020 au stade des Martyrs, sous le coup de 15h30, heure locale. L'unique rencontre inaugurale de la saison sportive 2020-2021 oppose Renaissance du Congo à l'un des représentants de la RDC en Coupe de la Confédération, à l'occurrence l'association sportive Maniema Union. Un démarrage de la saison inédit. L'impact Covid-19 impose certains préalables, notamment le huis clos inadmissible chez certains supporters. Et pourtant, le gouvernement congolais a trouvé un palliatif en assurant la retransmission des matchs à la télévision nationale et à travers d'autres médias partenaires. Ce qui est évident, c'est huis clos qui impacte déjà sur les habitudes des supporters congolais, aura d'une manière ou d'une autre certaines influences sur les équipes qui n'en ont pas l'habitude. Les plus importants est et reste le retour du football qui est très attendu. Il n'est donc plus que question d'heure.
En Europe, le FC Barcelone a remporté sa deuxième victoire en autant de matchs hier soir sur le terrain de Celta Vigo 3-0 malgré l'exclusion de son défenseur français Clément Lenglet. Juste avant la pause, en clôture donc de la 4e journée du championnat d'Espagne, Sous une pluie battante et à huis clos, les Catalans ont marqué par le jeune prodige Ansu Fati. À la 11e minute, Lucas Olaza contre son camp sur un centre de Lionel Messi et Sergi Roberto dans le temps additionnel. Et puis tirage au sort hier des groupes de Ligue des Champions, principal enseignement. Le tenant du titre Bayern Munich se retrouve dans le même groupe que l'Atlético. Et la Juventus de Cristiano Ronaldo sera face au FC Barcelone de Lionel Messi. Et puis toujours en Europe, l'attaquant polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a remporté hier le prix UEFA du meilleur joueur 2019-2020.
Aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, en pleine campagne électorale, Amnesty International vient de publier un rapport qui accable le président sortant Alpha Condé et son gouvernement. Au moins 50 manifestants tués en un an, note l'ONG dans un document publié mercredi, au lendemain des manifestations contre un troisième mandat d'Alpha Condé. À moins de 3 semaines du premier tour, une mission de la CDAO et de l'Union africaine a entamé ce jeudi à Conakry une mission de haut niveau sur le processus électoral. Le point avec Zakaria Camara, notre correspondant à Conakry.
La visite de cette mission conjointe CDAO, Union africaine, Nations unies, intervient alors que la tension persiste et s'intensifie en Guinée à l'approche du scrutin présidentiel. La délégation, qui aura des rencontres ce jeudi et demain, devrait renouveler son soutien à la tenue d'une élection pacifique, inclusive et transparente. La nouvelle plateforme de défense des droits de l'homme, créée il y a quelques jours, apporte son soutien au rapport et parle à son tour d'une régression de la situation des droits de l'homme en Guinée. Mamadi Kaba, président de la LIDA, Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique.
On a pratiquement une régression de la situation des droits humains pour la simple raison que, je vous parle de l'impunité, il y a une forte restriction des libertés publiques. Le ministre de l'administration du territoire avait même interdit tout attroupement jusqu'à nouvel ordre, ce qui est contraire à notre constitution et aux engagements internationaux de la Guinée.
Mardi, à l'appel des opposants au troisième mandat d'Alpha Condé, quelques manifestations sporadiques ont été signalées dans la capitale, mais vite maîtrisées par les forces de l'ordre. Selon certains observateurs, la faible mobilisation s'explique par la participation à la présidentielle de partis membres du Front National pour la défense de la Constitution. Ibrahima Souri Traoré, analyste politique.
La manifestation a échoué parce que, un, c'est le Dalain Diallo, le principal pourvoyeur de militants ou de manifestants, n'était pas dans les manifestations. Il faut se dire aussi que l'enjeu de ces élections est très important. Ça paraît être la plus importante élection de ces 10 dernières années. Il y a un sondage qui a été publié la semaine dernière qui dit qu'à Conakry, 60% en tout cas des personnes sondées veulent aller aux élections.
À moins de 3 semaines du premier tour, la Commission électorale nationale indépendante dit maîtriser le chronogramme. Mamadi Troakaba, porte-parole de la CENI.
Après que la CENI ait validé son chronogramme, il y a eu 3 décrets. Le décret fixant le jour du scrutin, le décret convoquant le corps électoral et le décret ouvrant la campagne électorale. Donc tout ça, c'est pour dire que la CENI est résolument engagée pour respecter son chronogramme. Et nous pouvons noter cela avec satisfaction que les étapes sont exécutées, il n'y a aucun retard assumé. Et donc, pour ce qui concerne la CENI, elle est encore une fois engagée pour respecter l'engagement chronogramme qu'elle a elle-même librement élaboré.
La campagne électorale est en cours malgré l'absence de consensus sur le fichier électoral. Zakaria Camara pour VOA Afrique.
Au Nigeria, les agriculteurs du Nord ont perdu plus de 2 millions de tonnes de riz, un quart de la récolte prévue cette année à cause des inondations.
Malgré cette perte énorme, le gouvernement maintient l'interdiction des importations de riz des pays voisins pour lutter contre la contrebande et stimuler la production locale. Reportage d'Ifyok Etang à Argungu, récit de Michel Joseph.
Ibrahim Adoulahi examine ce qui reste de sa rizière de 350 hectares dans l'état de Kebbi. Il s'attendait à récolter 600 tonnes, mais après des semaines de graves inondations, il aura peut-être la chance d'obtenir 100 tonnes de riz.
Since when I started farming, I have not experienced
Depuis que j'ai commencé à cultiver, je n'ai jamais connu la culture intensive du riz comme maintenant, car beaucoup de gens sont dans la riziculture. Mais malheureusement, nous avons connu ces graves inondations que nous subissons encore, et les agriculteurs comptent leurs pertes. 90% de nos agriculteurs ont perdu ce qu'ils ont cultivé.
L'état de Kebbi, le plus grand état producteur de riz du Nigeria, avait projeté 2,5 millions de tonnes cette année. Les fortes pluies de septembre ont emporté 2 millions de tonnes, ce qui pourrait entraîner une nouvelle hausse des prix. Mohamed Anaouna est meunier.
Si la pluie a déjà emporté tous les produits de la ferme, vous savez que les prix vont augmenter parce que le peu qu'ils auront au sol, ils voudront récupérer la valeur de ce qui a été détruit. Donc ils vont doubler le prix.
Avec plus de 200 millions d'habitants, le pays le plus peuplé d'Afrique importe chaque année à coût de milliards de dollars du riz et du blé. Les gouvernements successifs ont voulu faire la promotion de la production locale pour parvenir à l'autosuffisance. L'année dernière, le Nigeria a fermé ses frontières terrestres pour lutter contre la contrebande et stimuler la production locale. Malgré les pertes cette année, les autorités affirment que l'interdiction restera en vigueur et que les agriculteurs touchés seront indemnisés. John Wuyep, président de l'Association des agriculteurs.
Le gouvernement et même les institutions financières ont un mécanisme en place. Beaucoup de ceux qui ont perdu maintenant se préparent déjà à la saison sèche. Et c'est là qu'il y aura une synergie.
L'Association des agriculteurs affirme qu'un meilleur travail de base est nécessaire pour canaliser les eaux de la pluie, pour éviter les inondations et avoir un approvisionnement en eau plus régulier pendant la saison sèche. La réduction des inondations aiderait également à sauver des maisons et des milliers de Nigérians, souvent victimes des débordements des rivières.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre
porte. Au Cameroun, des défilés sporadiques ont eu lieu ce 1er octobre dans certaines localités des deux régions anglophones pour célébrer l'anniversaire de l'accession à l'indépendance de cette partie du Cameroun le 1er octobre 1961. Pour certains leaders anglophones, cette date symbolise leur autonomie du reste du Cameroun, ce que n'admet pas le pouvoir central qui s'oppose à toute velléité sécessionniste chaque 1er octobre dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jules Tap.
C'est sous la houlette des chefs de groupes armés locaux que des rassemblements ont eu lieu dans des zones reculées des régions du nord-ouest et du sud-ouest. En zone urbaine, les rues sont restées désertes ce 1er octobre. À Boya, chef-lieu de la région du sud-ouest, ou encore à Bamenda dans le nord-ouest, les activités ont tourné au ralenti tout au long de cette journée. Dans la ville de Koumba, située dans la région du sud-ouest, l'on a enregistré chaque 1er octobre, au cours des trois dernières années, des heurts entre séparatistes anglophones et l'armée camerounaise. Ce jour, un climat de peur s'est emparé de la population. Des vidéos et photos de célébration de l'anniversaire de l'indépendance du Southern Cameroun, baptisé Ambazonia, ont été postées sur les réseaux sociaux, notamment par certains leaders séparatistes anglophones en exil, à l'instar de Marc Baruta. Dans des vidéos postées sur Twitter, l'on aperçoit dans un village quelques hommes armés en train de parader devant plus d'un millier de civils, brandissant un drapeau bleu et blanc et chantant Ambazonia. Le gouvernement a fait aucune déclaration sur ses activités, mais comme chaque 1er octobre, les grandes métropoles des deux régions anglophones ont été militarisées. Mais pour l'avocat anglophone Arbor Bala, je cite, les populations ont le droit de célébrer pacifiquement le 1er octobre comme jour de l'indépendance sans interférence des soldats du gouvernement. L'an dernier, le gouvernement a organisé le grand dialogue national pour apporter des solutions à la crise anglophone. Mais le président Paul Biya avait exclu le sujet de l'autonomie des deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. L'universitaire Soumo Tayo et espère en question de sécurité.
Lors de sa tournée des provinces en 1991, le président Biya disait, je cite, « Vouloir dialoguer et définir soi-même les modalités du dialogue, c'est vouloir imposer sa volonté, donc refuser le dialogue. » Il est clair qu'aujourd'hui, en procédant de cette façon, le président Biya n'est pas véritablement disposé au vrai dialogue.
Une position que ne partagent pas les alliés politiques du président Paul Biya. Professeur Sandam Thomé est diplomate et homme politique.
Nos compatriotes estiment que depuis les accords de Fumban, on n'a pas évolué peut-être dans le bon sens. Encore que quand on parle d'anglophones, ils n'y parlaient pas anglais avant l'arrivée des colons anglais. C'est des Camerounais, c'est des Bantous.
C'est le 1er octobre 1961 que le Cameroun sous mandat britannique a accédé à l'indépendance, soit un an après le Cameroun francophone. En 1972, les deux parties du Cameroun ont opté pour la réunification, contesté depuis 2016 dans le cadre d'un conflit armé par les séparatistes anglophones. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Au Soudan, les femmes ont joué un rôle important dans la contestation populaire qui a conduit à la chute en avril 2019 du président Omar el-Bashir. Alors que le gouvernement de transition se dirige vers la démocratie, les femmes restent très actives et sont bien présentes sur la scène politique. Un reportage de Naba Mohyedine, relaté par Nathalie Barge.
Le 10 octobre 2019, Nimat Abdallah Kair est devenue la première femme à diriger la Cour suprême du Soudan. Quatre femmes ont obtenu des postes ministériels, un nombre sans précédent, dont la première femme ministre des Affaires étrangères, Asma Mohamed Abdallah. Mais elles luttent toujours pour modifier les lois et restaurer les droits dont elles ont été privées par l'application stricte de la charia sous le régime de Béchir. Samahir El-Moubarak dirige le syndicat des pharmaciens, membre de l'association des professionnels soudanais qui a joué un rôle majeur dans le soulèvement populaire.
Je n'ai jamais senti un niveau acceptable qui nous permettrait de cesser la lutte. La motivation qui pousse les gens à continuer d'atteindre les objectifs de liberté, de paix et de justice est du même ordre que celle qui les a poussés à renverser le régime de Béchir.
La répression du 3 juin 2019 à Khartoum a fait plus de 120 morts, dont le fils aîné d'Amira Kabous, vice-président de l'Organisation des martyrs de la Révolution. Assise à côté d'un portrait de son fils défunt dans sa maison à Khartoum, Madame Kabous explique son engagement.
Ce que nous faisons est dans la continuité du rôle des martyrs et de leurs sacrifices. Et nous n'avons pas encore atteint nos objectifs. Nous ne voyons pas la liberté, la paix et la justice qu'ils exigeaient. Et nous continuerons pour atteindre tous les objectifs de la révolution pour lesquels nos enfants se sont sacrifiés et pour restaurer les droits jusqu'à ce que nous puissions voir le Soudan dont nous rêvons tous.
Amira Kabous et Samahir El-Moubarak ont reçu le 16 septembre le prix américain Freedom House pour leur rôle dans la promotion de la démocratie au Soudan. La prestigieuse récompense a été décernée cette année sous le thème « Le pouvoir de la protestation ».
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos,
et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.